Bien sûr, la Panthère Rose, indicatif de Cramer de la Bobine, est en deuil comme nous tous. Bonjour Dominique.
Bonjour William. Bonjour JB. Ami du bout des ondes, bonjour.
Je disais dans mon préambule, bien sûr, la vie continue et doit continuer, mais bien sûr, situation exceptionnelle face à ce terrible drame qu'on a vécu durant 4 jours dans notre pays. Il me semblait intéressant et pertinent d'ailleurs de poser la question à tous nos invités du jour sur leur ressenti par rapport à ces événements sanglants de ces 3 derniers jours. Dominique ?
William, je voudrais déjà dire que tous les cramés de la Bobine, on est tous des Charlie. Et je suis Charlie. Parler de ce qui s'est passé, c'est épouvantable. Moi, j'étais à Paris mercredi. Hein. Inévitablement, je suis allé sur la place de la République. Et c'est une émotion extraordinaire. Un rassemblement de personnes spontanément qui sont venues montrer leur solidarité à ce pays qu'est la France, ce grand pays, ce merveilleux pays qui est pris en otage par des fous furieux, des gens qui n'ont ni foi ni loi. On est le pays des droits de l'homme. On est le pays de la liberté d'expression. C'est quand même...
C'est justement peut-être pour ça qu'il y a des attaques.
Qu'on est la cible. Et je voudrais aussi dire, William, que ce que j'ai trouvé extraordinaire quand je me suis retrouvé à Paris, c'est qu'il y avait dans cette foule un nombre considérable de jeunes, mais vraiment de jeunes. Et je sais aussi que, bien sûr, tout le monde le sait, qu'on est en tirant 30 000 exemplaires par semaine, c'est pas beaucoup, hein, Charlie Hebdo, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pratiquement jamais lu Charlie Hebdo. Mais cette fédération spontanée, sans aucun appel de parti politique, hein, sans rien, les gens sont venus, ça montre une force énorme de ce pays qui se croit divisé, qu'en fait au fond de lui-même il y a une vraie âme de Français, une vraie âme de personnes qui veulent avoir un projet tous ensemble et je crois, sans faire de la politique, parce que je suis pas du tout un spécialiste, mais les politiques devraient beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir à cette spontanéité, ce peuple extraordinaire qui s'est réuni spontanément sans avoir à répondre à des appels politiques, religieux ou syndicaux.
Alors je disais justement, ce qui ne peut que tuer ces obscurantistes et ces fanatiques, c'est effectivement la mobilisation d'un peuple dans son entier, avec bien sûr le fait de faire en sorte que ça repose sur des valeurs. Et là, on s'est aperçu effectivement tous dans cette tragédie à quel point on était surpris parfois par la réaction des uns et des autres. Je me suis retrouvé par hasard dans l'événement de Montrouge, puisque je n'habite pas très loin. Je me suis retrouvé bloqué une heure puisque j'étais à 400 mètres du lieu du drame. Et j'étais sidéré de voir les visages des gens, mais aussi les gens qui sortaient de leur voiture et les réflexions qu'ils avaient. Ils pensaient vraiment que c'était la fin du monde, que c'était la guerre et qu'il fallait par conséquent tous s'unir. J'ai trouvé quand même dans la profondeur des regards des uns et des autres, justement un autre regard peut-être qu'on porte sur les uns et les autres. Et ça, c'est peut-être ça ce qui peut être important pour l'avenir.
J'ai senti mercredi après-midi dans Paris, sur les trottoirs, une énorme tristesse. Les gens regardaient plutôt leurs chaussures. Dans le métro, il y avait un calme. Il n'y avait pas d'écho, pas de bruit. Les gens parlaient doucement. Il y avait une chape énorme qui pesait sur l'ensemble de ce pays, des gens qui étaient là. Et c'est un sentiment très particulier, très curieux. Est-on bien là vraiment? Et est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véritablement ce qui s'est passé?
Puis c'est vrai qu'on imagine mal, mais c'est scène de guerre. Il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit de ce qu'ont vu des gens. Autre anecdote, je me suis retrouvé à un rassemblement devant Charlie avec mes autres confrères et consoeurs journalistes. J'étais impressionné aussi de voir ces gens, ces anonymes qui venaient, pour certains avec des crayons. Il y avait une symbolique très forte et qui montre que peut-être qu'on va à travers un mauvais événement comme celui-là peut-être prendre conscience de la réalité de l'en commun, de l'autre et de partage et de fraternité. Ouais.
William, je voyais un dessin sur une arme qui était cassée en deux, elle était inutilisable, le crayon de papier il était cassé en deux, quelqu'un l'a déjà taillé, c'était deux armes.
Alors je souhaite que ceux qui ont commis ces attentats se réveillent bientôt, avec un retour, je dirais, de manivelle, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir que peut-être que, à travers Charlie Hebdo, qui va être peut-être demain, et j'espère, l'icône de ce que doit être la liberté de la presse, eh bien, les gens prennent conscience, On peut tous ne pas aimer Charlie Hebdo, mais on a une particularité en France, c'est que quand on parle de liberté, c'est qu'on a la liberté d'acheter un journal, on a la liberté d'écouter une radio, on a une liberté de regarder des programmes à la télévision, c'est ça la liberté. Et je voudrais juste rappeler quand même que quand on parle de laïcité, il ne faut pas tout confondre. Il faut bien comprendre que la laïcité, c'est la liberté de penser. Et justement, on doit chacun, en fonction de ses confessions religieuses, penser ce qu'on veut. Mais on ne doit surtout pas arriver à ce type de choses et ne pas tout confondre. Et je crois qu'il faut faire aussi attention, on aura tout à l'heure le débat avec les autres journalistes, mais justement, il faut faire attention que, je le disais, la force de ces gens-là, c'est de véhiculer des idées d'opposition les uns vis-à-vis des autres. Et bien justement, on doit montrer qu'on est fort, et notamment demain, je sais qu'il y a énormément de manifestations partout en France. On annonce 1 million de personnes demain à Paris, place de la République. Je sais qu'il y a un rassemblement à 11h aujourd'hui à Chalette, qu'il y en a un peu partout. Je sais qu'il y a des cars qui partiront aussi du Loiret.
Il y en a un à 11h aussi devant la préfecture, la sous-préfecture à Montargis.
Je n'ai pas d'ordre à donner aux gens, mais si j'avais une consigne ou une chose à dire, c'est que sortez, mobilisez-vous, exprimez-vous.
Faut pas fermer la parole, faut pas s'interdire de parler. Et puis il ne faut pas non plus, je crois, il ne faut pas véritablement se tromper de cible. Il n'y a pas d'amalgame, hein, c'est sûrement pas. Il y a des fous furieux, il y a des gens qui sont incontrôlables complètement.
Je disais des vendeurs de mort.
Ouais, moi j'appellerais ça des sous-hommes, parce que c'est une lâcheté sans nom d'aller tuer des gens qui sont autour d'une table, qui sont en train de préparer quelque chose qui va faire plaisir à d'autres, qui correspondent à un état d'esprit, et c'est pas, vous savez, il y a tellement de, chez Charlie Hebdo, il y a tellement de milieux qui ont été dessinés, caricaturés, hein, c'est pas pour autant déclarer la guerre, hein.
Non,
donc,
la preuve.
Il faut pas.
Je disais, je fais sienne cette phrase, plutôt de l'encre que du sang. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, et j'espère que, c'est ce que disait Pelou notamment, qu'ils ont pas tué Charlie. Et voilà, il faut qu'on continue.
William, je peux me permettre, hein, je vais insister, parce que je voudrais dire que j'ai été hypersensible à la presse internationale, comment ils ont réagi, tous ont fait des premières pages, hein, les Anglais, les Espagnols, tous ont fait des premières pages. Le Premier ministre italien a dit qu'il se sentait français. Barack Obama a été signé à l'ambassade de France à Washington, vive la France. Tout le monde est très 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 solidaire. La presse française a été assez extraordinaire dans ses titres, dans ses façons de compte-rendu. C'est vraiment assez. Enfin, je trouve que les journalistes se sont investis énormément dans le cadre de, justement, de leur liberté d'expression. Et puis, je suis venu ce matin avec un journal, jeudi matin.
Il faut rester dans l'esprit de Charlie.
Ouais. Je suis venu avec un journal. C'était le journal de L'Équipe, la première page. L'Équipe, c'est quand même pas un journal politique.
Oui, mais c'est populaire, et ça peut être populaire dans le bon sens du terme.
C'est
au moins rapproché des gens.
La première page. Il y a tout un groupe de gens qui sont dans une tribune avec des couleurs, des drapeaux. Il y a un enfant, on lui ferme les yeux. Et puis le titre du match, c'est Liberté contre Barbarie, 0-12. William, on va faire une petite pause musique.
Oui, on va faire une petite pause musicale. Puis juste après, je crois qu'on va retrouver Sylvie Brébant, rédactrice en chef de TV5 Monde, qui, on va lui demander à elle comment elle a vécu ces événements. D'autant qu'il y a peut-être un double, un triple sentiment pour elle, puisqu'elle connaissait parfaitement tous ceux qui sont morts. Et donc, on aura un petit propos d'ici quelques instants avec elle. Mais avant, on va peut-être faire une petite un intermède musical, mais vous allez voir.
Ouais, c'est
un peu spécial.
Un peu spécial.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et Black, il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire.
Voilà, spontanément, on a essayé de trouver un titre ce matin. Bon, là, c'est Serge Reggiani. Les loups sont entrés dans Paris, bien sûr. Il évoquait cette période triste de notre histoire aussi, la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, pour résumer, peut-être que des loups, il y en a eu dans les années 40. Il y en a encore aujourd'hui.
Ah bah oui, je crois bien qu'on est un peu dans cet état d'esprit-là quand même.
On va poursuivre notre tour d'horizon, puisqu'on a décidé aujourd'hui, vu les événements, avec chacun de nos invités, d'avoir un peu leur ressenti sur ces trois jours passés, ce terrible carnage. On a au téléphone Sylvie Brébant, rédactrice en chef des 5 Mondes. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sylvie.
Alors Sylvie Brébant, je souhaitais vous faire réagir, bon, bien sûr en tant que citoyenne, mais aussi journaliste. Comment vous avez vécu ces trois jours?
Mal, je pense, comme tout le monde. Hein, c'était bon. D'abord, je les ai vécus très directement, puisque j'étais à TV5 quand la tuerie à Charlie se passait. On était, enfin, je pense, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans la presse, comme moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là dans une espèce d'état second, parce que, comme beaucoup, je les connaissais, mais peut-être qu'à TV5 Monde, on les connaissait peut-être encore plus qu'ailleurs, puisque ça fait très longtemps qu'on a un compagnonnage avec le dessin de presse. En fait, il y avait une émission que j'avais lancée il y a déjà 20 ans qui s'appelle Kiosque. Et comme je connais Plantu depuis très très longtemps, on avait mis en place, c'est un club de la presse internationale, et donc on avait mis en place depuis très longtemps de faire 2 numéros par an consacrés au dessin de presse. Alors il y a eu des gens de Charlie évidemment qui sont passés, et puis il y avait aussi notre dessinateur, qui est un dessinateur algérien qui s'appelle Guilhem, qui est connu dans le monde entier, qui a eu plusieurs fois le prix du meilleur dessinateur de presse dans le monde, et qui vit moi, quand je me disais que j'aurais une mauvaise nouvelle, je pensais à Guilhem, parce que ça fait 20 ans qu'il vit, lui, sous la menace, avec les volets fermés, etc. quoi. Il est menacé de partout. Donc je repense à tout ça, moi, depuis. Et puis évidemment, avec les nouvelles victimes là d'hier. Je repense à tout ça depuis jeudi. Ça tourne en boucle. Et voilà, enfin, comme tout le monde, je pense. Hein.
Sur le fait que les islamistes considéraient ces personnes comme des personnes dangereuses, c'est assez terrifiant de savoir que, armé d'un stylo, d'un crayon ou d'un bic, on peut affoler ce type de personnage.
Oui, mais bon, enfin, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça arrive chez nous. C'est arrivé déjà. Il y a eu de la censure. Heureusement, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de mort encore. Mais enfin, bon, il n'y a pas longtemps, il y a un caricaturiste syrien qui a eu les deux mains brisées. Donc je parlais de Guilhem qui, lui, vit sous une menace permanente. On a aussi beaucoup travaillé avec un dessinateur iranien qui a dû partir de son pays. Donc bon, autrefois dans les dictatures d'Amérique latine, enfin on a oublié tout ça, mais c'est-à-dire que la force d'un dessin, elle est beaucoup plus grande que celle d'un article ou d'un éditorial, parce que c'est l'image, et l'image c'est émotionnel en fait, c'est comme les images à la télé, les images animées, mais le dessin c'est un truc immédiat, c'est une émotion immédiate, où on n'a pas forcément besoin de savoir lire, écrire pour le comprendre, et donc c'est ce qui fait sa dangerosité pour les gens qui n'en veulent pas. Enfin, voilà, mais évidemment, c'est bon. De toute façon, moi, ce que je me dis, c'est que ces gens-là qui ont fait ça, ils n'ont rien dans la tête, parce que ils imaginent qu'ils vont arrêter les dessinateurs. Moi, ceux que je connais, jamais ils s'arrêteront, jamais. Donc, c'est même de leur point de vue, c'est totalement contre-productif et absurde, quoi. Voilà.
Et justement, Sylvie Rouvent, ceux qui ont été assassinés et ceux que vous connaissiez, comment on disait très souvent, c'était des guélurons sérieux, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'avoir beaucoup d'humour, mais d'être très très incisifs sur leur message.
Oui, et puis moi, je dirais aussi que c'était des enfants. Enfin, si je pense à Cabu, surtout. Mais d'une certaine manière, bon, les autres aussi, Tinius, Charb, Volinsky, ils ont un côté enfantin, en fait. J'ai l'impression qu'il faut garder une part d'enfance quand on fait du dessin de presse. C'est pareil pour Dilem aussi, que voilà, qu'on connaît très bien, ou même pour Plantu. Et donc il y a ce côté à la fois très incisif, très drôle, et puis aussi ce côté, moi je dirais enfantin, qui en tout cas moi me touchait énormément, voilà.
J'ai eu l'occasion moi de rencontrer Volinsky. Il me disait, il se définissait comme un jouisseur de la vie.
Oui, mais en même temps c'est des jouisseurs de la vie, mais. Quand vous voyez certains dessins, vous comprenez aussi que la vie, il se la coltine dans toute la stupidité de la vie, parfois l'horreur de la vie. Enfin, il y a des dessins qui sont des vrais coups de poing. Donc oui, c'est sûr, c'est des jouisseurs, mais c'est aussi des gens qui savent taper là où il faut et quand il faut. Bon, parfois, moi, il y a des dessins qui me font pas rire, mais c'est pas grave.
C'est la liberté.
Quoi. Voilà, hein, ça en fait rire d'autres et c'est très bien comme ça.
Sur l'élan de solidarité vis-à-vis de ce journal qui, j'espère, ne s'arrêtera pas sous le fait de l'émotion, bon, on a. Eux-mêmes le disaient, hein, qu'ils n'ont pas été soutenus parfois, et ils ont se retrouvé un peu seuls. C'est le sentiment que vous partagez ou pas ?
Oui, je pense, parce que c'était à un moment donné, c'était avant, donc avant ce jour-là, et donc avant ce jour-là, on pouvait se permettre d'être critique, parfois polémique avec eux, parce que ça n'avait aucune importance, quoi. C'était juste des discussions entre personnes adultes qui débattaient de sujets, qui n'étaient pas d'accord. Mais bon, voilà, maintenant, il s'est passé ça, et donc ça, c'est pour l'instant fini. Bon, ça n'empêche pas, après, qu'il faut penser l'après, penser PEN et penser PAN, hein, mais bon, c'est sûr aussi qu'ils n'ont pas toujours été, parce que parfois leurs dessins, enfin les sociétés, nos pays, ils ont changé aussi récemment.
C'est vrai.
Donc forcément l'humour, le dessin de presse, on dit toujours que quand on entend, quand on réécoute des sketchs des proches, on se dit mais on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Donc voilà, le monde avait bougé et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'était pas aussi soutenu qu'ils auraient dû l'être.
Mais justement, aujourd'hui, la liberté de la presse, la liberté d'expression a été violemment attaquée. Est-ce que, j'ai deux questions, est-ce que ça modifie un peu le passage de l'information ? Est-ce que les journalistes vont un peu modifier leur façon de travailler ? Et puis deuxième chose, est-ce que les médias, les grandes antennes comme TV5 Monde par exemple, ont reçu une charge de sécurité supplémentaire ? Est-ce qu'elles sont encore mieux protégées qu'ils pouvaient l'être ? Est-ce que c'est le cas par exemple à TV5 Monde ?
Bah, TV5 Monde depuis mercredi, donc on vit avec la police en bas de chez nous. C'était arrivé par le passé, mais ça faisait des années que c'était plus le cas. Et donc il y a deux policiers. Enfin, on ne peut plus rentrer librement. Il faut sonner avant de rentrer. Et puis les volets pour les étages les plus bas ont été baissés. Donc c'est sûr que ça donne une atmosphère de travail qui n'est pas spécialement sereine, mais en même temps je pense que ça ne peut que nous inciter encore plus à faire notre métier de journaliste et à le faire bien. Donc voilà, c'est en ce sens là bon, il y a eu une charge symbolique, d'une violence symbolique même, on pourrait dire extrêmement brutale, forte, enfin je sais pas comment on peut dire. Bon, le monde a parlé d'un 11 septembre en France. Ça n'est pas faux dans le sens symbolique.
Ben, symbolique, bien sûr.
Et voilà, mais en même temps, évidemment, que je pense pas, enfin là il y a plein de journalistes aussi autour de vous, c'est au contraire, ça ne peut que renforcer l'envie de faire son travail et de le faire le mieux possible.
Et que pensez-vous de la réaction des hommes politiques européens ou à travers le monde qui ont porté une certaine solidarité aux problèmes que rencontrait la France aujourd'hui ?
Ben justement, je pense que c'est en raison de cette charge symbolique, quoi. C'est les dessinateurs de presse, il y en a partout dans le monde. C'est une tradition française, hein, oui. Depuis le XVIIIe siècle, donc une tradition française.
Caricature
très,
sur la Troisième République, par exemple aussi.
Voilà, c'est quelque chose de très important qui a essaimé partout dans le monde, et donc. Je pense que c'est comme si on atteignait, effectivement, j'ai entendu une dame dire, qui était venue à Charlie Hebdo, elle a dit, mais c'est comme si on avait tué des personnes de ma famille. Et je crois que, en tout cas, Charlie est chez nous depuis tellement longtemps, ses dessinateurs. Enfin, moi, j'ai grandi avec Cabu, par exemple. Hein, je suis un peu plus jeune que lui, mais pas beaucoup plus. Et j'ai vraiment grandi avec lui depuis Pilote jusqu'à Charlie, quoi. Voilà, on a tué un de mes compagnons, et donc je pense que pour tout le monde, c'est comme ça, et voilà, tant que des gens qui n'étaient pas d'accord hurlaient, il n'y a pas eu que les islamistes, hein,
les intégristes de tout bord,
aussi, toutes les religions leur sont tombées dessus, voilà, mais évidemment c'est la première fois qu'on les tue, quoi, donc ça fait une différence gigantesque. Hein.
Oui, on a voulu tuer Charlie Hebdo, moi j'ai l'impression qu'on l'a simplement immortalisé maintenant.
Ah oui, ça c'est sûr. Alors il faudra voir.
Ça demeure dans le temps.
Oui, voilà, parce que là il y a un mouvement spontané, gigantesque, formidable, mais il faudra voir après. Il faut pas que les peurs prennent le pas sur ce mouvement. D'ailleurs, toutes les peurs, hein, c'est oui. Voilà. Là pour l'instant, il y a une sorte d'unité, d'union, etc. Mais parce que c'est aussi ça que ça visait, c'est-à-dire de provoquer des peurs. Hein, donc, bon.
Bah au moins, si ça peut permettre de faire comprendre l'utilité et l'exigence d'un pays comme le nôtre à travers la liberté de la presse, au moins, c'est peut-être ça qui ressort en positif.
Oui, j'espère qu'il y aura du positif, effectivement. On peut toujours se garder cet espoir, mais il faudra être très voilà, très très vigilant et ne pas laisser retomber ce bel élan, en fait. Hein.
Bon, en tout cas, merci Sylvie Brébant. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à TV5 Monde, de nous avoir apporté votre témoignage. Bon, bien sûr, vous êtes, je dirais, comme beaucoup d'autres, bien sûr touchés, et vous, à plus d'un titre, puisque vous connaissiez personnellement certains de ces caricaturistes. Merci en tout cas d'avoir.
Merci Sylvie, puis à très bientôt sur ces deux ailes. Merci.
À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était donc un témoignage parmi d'autres qui est pas inintéressant hein, puisque journaliste
d'un grand média.
Et en plus, TV5 Monde, qui a une couverture, sur l'ensemble de la planète.
Ouais.
Eh bien, c'est pas inintéressant d'avoir aussi ce regard de cette profession et de cette appréhension qu'on peut avoir après ce que ont tenté de faire ces fanatiques. On va poursuivre, Dominique, avec, bien sûr, je le disais en préambule, que la vie continue et surtout doit continuer avec le film de la semaine du côté de l'Alticiné, malgré tout.
Alors, la vie continue, hein, bien sûr, et d'ailleurs, cette semaine, Les Cramés de la Bobine, on a un film qui est un film français de Laurent Cantet, et c'est Retour à Ithaque. Alors, Ithaque, hein, on sait, c'est l'histoire de, c'est d'après l'Odyssée d'Homère, hein, c'est le retour d'Ulysse qui était le roi d'Ithaque.
Ah bah tiens, on va remonter.
Dans les îles de la Grèce
archipel
ionien. Ouais. Et en fait, ce retour à Ithaque, ça se passe à Cuba, et c'est l'histoire de 4-5 personnes qui se retrouvent la fin d'après-midi sur un toit d'un immeuble, une terrasse d'immeuble à La Havane. Il fait bon, il fait doux. C'est des vieux potes, ils ne sont pas vus depuis 15-16 ans. Il y en a un qui revient d'Espagne, qui a quitté ce pays il y a donc 16 ans. Il a la nationalité espagnole. Il a un visa touristique pour venir passer ces quelques semaines à Cuba. Et puis, ses vieux amis vont reparler, vont se refaire un peu avec nostalgie. Leur vécu à l'époque, et pourquoi il est parti, et pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi j'ai pas fait ça.
Oh, c'est très existentiel tout ça.
Et pourquoi l'État m'a imposé faire ça. Et en fait, doucement, les personnalités se découvrent, s'affirment, les souvenirs se remontent à la surface. On est presque. D'abord, on est dans un huis clos, hein, un plein air, ça c'est clair. Et puis, ils vont tous exprimer quelque chose de l'un par rapport à l'autre, leur senti, ce qu'ils ressentaient de l'autre, mais ce que l'autre ressentait de lui-même aussi, pourquoi il l'a fait. Et en fait, ça tourne autour de ce pays, Cuba, qui a basculé à une époque dans un système particulier qui a déclenché un peu de pauvreté chez les gens et qui n'ont pas les moyens véritablement de voyager. Alors, lui, il est parti, les autres sont restés, c'est pas si bien harmonieux que ça. Et ça va développer pendant une heure et demie des échanges assez extraordinaires, des vrais échanges forts de copains qui n'ont pas de raison de se pas dire les choses. Il y a une femme qui est médecin, elle gagne peu, elle se fait payer en fait par
les patients quotidiennes, la réalité sociale,
apporte un poulet ou apporte quelque chose comme ça. L'autre, il est peintre mais il a perdu sa vocation, il peint mal, et puis il y en a un qui faisait du théâtre, il est pareil. Bon, ils vont tous en parler un petit peu de leur vie, leur vécu, et puis peut-être de leur projet. Et leur projet, c'est presque une parenthèse, hein, William, parce qu'on sait que le 20-21 janvier prochain, il se passe quelque chose de majeur à Cuba, c'est le fameux embargo va évoluer un peu, il y a des prisonniers politiques pour être libérés. Alors je trouve que ce film vient
parfaitement bien. Ils ont libéré 36 hier.
Ouais, dans l'actualité, voilà, c'est ça. Et par contre, il y a une chose qui me gêne dans le développement de ce film. C'est pas le film par lui-même. Ce film a été le scénario a été approuvé par l'Institut cubain d'art et d'industrie cinématographique. Donc
ouais,
ça, c'est normal. Bon, il a eu son accord, pas de problème. Et puis il a été déprogrammé au festival de cinéma de Havane. C'est un film français, donc il était programmé. Il a été déprogrammé. Sous quel prétexte ? Eh bien, simplement qu'aucune catégorie ne permettait de le sélectionner.
Oui. Bon, c'est la formule.
C'est Laurent Cantet dit, moi, j'ai pas fait vraiment un film politique. Hein, j'ai fait un film sur l'histoire cubaine, une histoire humaine, simplement. Alors, Laurent Cantet, on le connaît. C'est un garçon qui est né dans les Deux-Sèvres à Mel en 1961. Il a fait 8 longs métrages, donc c'est déjà bien quand même. Hein. Alors, en 2012, il a fait un film. C'était un film qui s'appelle 7 jours à la Havane. Donc déjà, il est primé cubain, et c'était des sketchs. Il y avait 7 sketchs, et lui a fait un des 7 sketchs, évidemment. Il commençait déjà à vouloir faire le film qu'il a réalisé ces jours-ci, maintenant, Retour à Ithaque, et en fait, il a trouvé que la matière était plus importante qu'un sketch de 10-12 minutes, donc il a fait un autre film pour les 7 jours à la Havane, voilà. Et puis il a gardé son sujet, Retour à Ithaque, pour le plus le développer. Et nous, on a programmé aussi, il y a à peu près un an et demi, à l'Alticiné, dans le cadre des Cramés de la Bobine, en 2012, un film qui s'appelle Firefire, Foxfire plutôt, Confession d'un gang de filles. C'est un film qui a été tourné au Canada où des jeunes femmes se mettent un peu en marge de la société et vont faire du petit hold-up, des choses un peu bizarres quoi. Voilà. Et ça c'est notre ami Laurent Cantet. Alors ce film est à l'affiche cette semaine. On aura donc une programmation demain dimanche à 18h, lundi en début d'après-midi vers 13h30 et puis mardi à 20h30 une programmation avec un débat qui sera animé par Françoise Fouillet. Je voudrais ajouter que dans la programmation des Cramés de la Bobine, nous avons encore quelques belles soirées à venir. Par exemple, demain, donc, on a dans le cadre du Cinéculte, on a un film français de Jean-Paul Rappeneau qui s'appelle La Vie de Château.
Ah bah voilà.
Et La Vie de Château,
tout le monde rêve de ça. Non,
ah, oui, avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur.
C'est un Philippe vieux film, très bien.
Un beau film qui a été remasterisé, qui a amélioré. Et puis on aura le jeudi 15 janvier à 20h30 le documentaire du mois. Ça, c'est une séance qui marche beaucoup. Les gens sont très friands de ces documentaires. Ça s'appelle Pôle emploi, ne quittez pas. C'est un film de Nora Philippe et la réalisatrice sera présente. Elle viendra à l'Alticiné et parler un peu de son film, comment elle l'a réalisé. Et voilà, un petit peu immédiatement dans la semaine, les films
qui est en plein dans l'actualité en plus.
Ouais. Et puis, alors, William, je voudrais ajouter la semaine prochaine, on reviendra, hein, mais c'est un film assez fort qui s'appelle Mr. Turner, c'est le peintre britannique. C'est un film assez long, 2h30, qui a été réalisé par Mike Leck. C'est un film assez intéressant, très fort. Voilà, je voulais souhaiter à tous nos amis auditeurs une belle semaine. Comme on dit, William, la vie continue.
Il doit continuer.
La vie doit continuer. Je voudrais. Je sais bien que je vais toujours vous dire vive le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous dire d'abord, je suis Charlie. Les Cramés de la Bobine, nous sommes tous Charlie. Et puis, je voudrais simplement finir en disant Charles Liberté.